DW. Pulsation. Nouveau volet sur l'enseignement de l'histoire coloniale en Afrique, aujourd'hui dans la partie anglophone du continent. Nous verrons que les Britanniques aussi ont légué leur système scolaire à leurs anciennes colonies et leurs perspectives sur les contenus pédagogiques, notamment concernant l'histoire. En fin d'émission, nous découvrirons le dernier album de la chanteuse nigériane Tiwa Savage, l'un des grands noms de la pop africaine à travers le monde. Mais tout d'abord, le mot du jour, habitat. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Chaque année, le premier lundi du mois d'octobre, c'est la journée mondiale de l'habitat. En cette année 2020, c'était donc le 5 octobre. Un jour après, je vous propose une brève explication du terme. Habitat vient du verbe latin habitare, qui lui-même découle du verbe latin habere, qui signifie avoir, posséder. Le lieu que l'on possède, que l'on investit, où l'on demeure fréquemment, est devenu par extension le lieu que l'on habite. L'habitat désigne aujourd'hui donc, lorsque l'on parle de l'être humain, le mode d'occupation de l'espace pour se loger. Mais la notion dépasse celle du simple logement, comme la maison ou l'appartement. L'habitat englobe tout ce qui concerne l'organisation du lieu de vie, c'est-à-dire les commerces de proximité, les transports en commun, les infrastructures, la gestion de l'énergie, pour le chauffage et l'éclairage par exemple, et enfin la gestion des déchets et l'aménagement du terrain. L'habitat s'exprime par une architecture qui dépend de l'environnement dans lequel elle est développée. Environnement qui peut être plus ou moins hostile selon la nature du terrain, les conditions climatiques et d'autres facteurs déterminants. En outre, l'aspect culturel et sociétal joue également un rôle dans la configuration d'un habitat humain. En effet, des composantes telles que la religion, la structure familiale, les us et coutumes entrent en ligne de compte. Dans le domaine de l'habitat, l'homme est condamné à innover sans cesse, car il manque de plus en plus d'espace adéquat pour construire. Il faut donc s'adapter à des endroits où les contraintes naturelles sont plus astreignantes. Vous écoutez Pulsation, le magazine Jeunes et Culture sur la DW. Après le Congo et le Nil, le Niger est le troisième fleuve le plus long du continent africain. Le cours d'eau traverse de nombreux pays de l'Afrique de l'Ouest avant de se déverser dans l'océan à Port Harcourt, dans l'extrême sud du Nigeria. Il est donc très important pour le développement économique et culturel de la sous-région. Et pourtant, il existe encore des idées fausses sur le Niger, et ce, même dans les pays où ses eaux coulent. Notamment concernant sa découverte, explique l'historienne nigériane Faith Odele, qui se souvient des cours d'histoire à l'école.
Qui a découvert le fleuve Niger, Mungo Park? Là, j'ai commencé à me poser des questions. Est-ce que le fleuve n'existait pas avant que Mungo Park vienne ici? Il n'y avait pas de gens qui pêchaient dans le fleuve? Pourquoi les Nigérians apprennent à leurs enfants que Mungo Park a découvert le Niger?
Évidemment, ces questions sont rhétoriques. L'explorateur écossais n'a fait que rapporter l'existence du fleuve en Europe où, à l'époque, en 1796, la géographie de l'Afrique était encore une zone d'ombre. Les cours d'histoire dans les anciennes colonies britanniques sont, comme dans l'espace francophone d'ailleurs, conçus de la perspective des anciennes puissances coloniales. Les exemples ne manquent pas, comme celui d'un livre scolaire de sciences sociales utilisé au Ghana et dans lequel cette question est posée aux élèves.
Quels sont les effets positifs du colonialisme?
Et les réponses possibles sont
A. La construction d'établissements scolaires, B. L'introduction de la langue anglaise, C. L'ouverture vers des marchandises de l'étranger, D. La croissance des villes.
Comme on peut le reconnaître dans cet exemple, 60 ans après la fin du colonialisme dans la plupart des pays africains, on a l'impression que le passé exerce aujourd'hui encore une forte influence sur l'enseignement de l'histoire dans ces pays. L'écrivaine botswanaise Sianda Moutsiwa regrette de ne pas avoir appris plus sur la perspective de ses compatriotes concernant l'histoire du Botswana. Selon elle, l'accent est mis exclusivement sur l'indépendance en 1966. Pour en apprendre plus sur le destin de son propre pays, Sianda a dû prendre des cours supplémentaires en Tswana, la langue administrative.
En Tswana, le mot qui désigne le colonialisme signifie changement. C'est une version qui minimise ce qui s'est passé. À l'école, c'était comme si les professeurs essayaient d'éviter le sujet, comme si quelqu'un avait dit il y a 20 ans qu'on n'avait pas le droit d'enseigner ça.
En cours, Siyanda Moutsiwa a appris beaucoup de choses sur la concurrence qui régnait à la fin du 19e siècle pour occuper l'Afrique, par exemple du point de vue de l'empereur allemand ou de celui de la Grande-Bretagne. Or, ce sont eux, les Européens, qui ont écrit ces livres. Du coup, c'est formulé de telle manière que Siyanda se prenait à souhaiter, par exemple, que l'Allemagne obtienne les territoires qu'elle convoitait. Selon l'écrivaine, le problème est profondément ancré dans le passé.
Quand le système scolaire britannique tel qu'on le connaît aujourd'hui a été inventé au milieu du XVIIIe siècle, c'était aussi l'époque de l'expansion coloniale. D'une part, on apprenait à enseigner à des enfants et de l'autre, on apprenait à coloniser d'autres pays. C'est à ce moment-là qu'on a inventé un mythe de la négritude, qu'on a créé une identité à l'Indien ou d'autres groupes ethniques. Parce qu'il fallait convaincre la population britannique que c'était une bonne idée de mettre d'autres peuples en esclavage. En fait, on a créé le narratif de la blanchité et inculqué aux élèves que les Noirs et les gens de couleur sont inférieurs et que les Blancs sont supérieurs. Alors maintenant, imaginez ce qui se passe si cette mentalité, cet enseignement est exporté dans les pays colonialisés.
Cette contradiction entre le vécu de l'oppression et l'intégration de la perspective de l'oppresseur est un problème fondamental, dit également Faith Odele. Car pour chacun d'entre nous, l'histoire de son propre pays est centrale dans le processus de construction de son identité. On n'est pas constitué seulement de son présent, mais aussi de son passé, affirme l'historienne nigériane. En effet, elle reste persuadée que lorsque l'on reçoit une fausse image des réalités historiques, on perpétue des injustices du passé. Pendant sa scolarité, dans les années 1990, l'histoire n'était même pas au programme, se souvient-elle. Le résultat est qu'aujourd'hui, toute une génération de Nigérians ne connaît pas l'histoire du colonialisme dans son pays. Et Faith Odele tient le pouvoir nigérian pour responsable.
Notre gouvernement veut qu'on continue à se sentir pauvre et impuissant, parce qu'il ne veut pas que nous nous battions pour que le Nigeria progresse. Donc pour lui, le mieux c'est que les gens ne connaissent pas leur histoire. Il ne faut pas que l'on sache qu'il y a eu des émeutes et des protestations des Nigérians pendant le colonialisme. Si le peuple ne sait rien sur le Nigeria, il ne peut pas formuler d'exigences envers le gouvernement.
Mais il y a des initiatives pour mettre la perspective africaine au centre de l'enseignement de l'histoire sur le continent. Le gouvernement du Kenya a annoncé en effet en 2019, par exemple, vouloir mettre en œuvre des propositions de l'UNESCO d'intégrer l'histoire de l'Afrique dans les programmes scolaires en la libérant auparavant des préjugés hérités de l'esclavage et du colonialisme. En Afrique du Sud, la ministre de l'Éducation a exigé fin 2019 que les cours d'histoire sud-africaine et africaine soient obligatoires jusqu'à la terminale. Soit 3 ans de plus que jusqu'alors. Et enfin, au Botswana, aussi, les choses changent. Alors que l'écrivaine Siyanda Moutsiwa n'a connu que des enseignants blancs, le prof d'histoire de son jeune frère, aujourd'hui, est un Botswanais. Merci à Célia Frelich qui a recueilli ces témoignages pour la DW.
Coup de projecteur. With everything I am, I'm singing hallelujah. My life is okay. Every day, more shafi, Baba. I'm singing hallelujah, hallelujah.
Celia est une des chansons du troisième et dernier album de la chanteuse nigériane Tiwa Savage. Un album intitulé justement Celia, en hommage à sa mère, car selon l'artiste, elle incarne tout ce dont parle l'album, la femme africaine forte et moderne. Sorti en août dernier, l'album a été construit en 3 phases, à Londres, Los Angeles et surtout à Lagos, au Nigeria, où la chanteuse a loué 8 chambres pour 15 jours dans un hôtel où les producteurs et les musiciens pouvaient aller et venir à leur gré et échanger leurs idées. Et ça a donné ça, par exemple. Yeah, I know settings no balance, but you don't try for me. Yeah, yeah, and I go give you joy, cause I know strong man go day for me. Yeah, good for you. Celias, l'album de Tiwa Savage, décline en 13 chansons de bonne tenue mais pas exceptionnelles toute la palette de la chanteuse entre l'afrobeat, la soul et le R&B. Le tout porté par un nouvel esprit critique. L'artiste arrivée à maturité a effectué un virage vers des sujets plus profonds, notamment après son divorce mouvementé et les difficultés rencontrées dans un monde dominé par les hommes. Un album somme toute réussi, dont l'un de mes titres préférés est Olé, que nous écoutons pour nous quitter. Accédez au podcast de Pulsation sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Excellente suite de programme sur la DW. Salut. Yeah.